Bonjour Hervé Berville.
Bonjour.
On va parler de l'aide au développement avec vous, puisque vous venez d'être nommé rapporteur d'un projet de loi sur la question. Mais d'abord, j'aimerais vous demander d'où vient, selon vous, cette libération de ce qu'on pourrait appeler une parole haineuse, raciste, antisémite, homophobe, et dont vous avez été vous-même victime personnellement.
Bon, d'abord, elle vient de loin, elle n'est pas nouvelle. Il y a eu, dans notre histoire contemporaine, au cours des différentes crises que la France a connues, des moments où l'extrême droite, l'extrême gauche, la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme ressurgissent. Et il y a des moments dans notre histoire où il faut justement, parce que ça ressurgit, parce qu'il y a eu des crises économiques, parce qu'il y a des moments où les grands équilibres bougent, parce qu'il y a des moments où les grands équilibres politiques aussi sont en plein mouvement, où du coup, parfois, les gens perdent leur repère ou se disent que tout est possible. Et donc, notamment, libérer une parole qui n'était pas concevable le devient, parce qu'il y a une hystérisation aussi de la parole avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'en continu, qui fait que chaque parole se vaut, que une opinion devient une vérité devient une opinion parmi tant d'autres. Tout ça fait que il y a des gens, des citoyens qui considèrent que bah voilà, on peut dire ce qu'on veut, on peut intimider un élu, on peut étanter et brûler la maison du président de l'Assemblée nationale, ce qui est totalement scandaleux. Et voilà. Donc il y a.
Qu'est-ce qu'on ressent lorsque on reçoit, comme ça vous est arrivé, comme c'est arrivé à votre collègue députée Laetitia Avia de La République en Marche, comme votre collègue Jean-François Mbaye également de La République en Marche. Vous êtes trois députés noirs, qu'on reçoit une lettre d'insultes absolument abjectes.
D'abord, c'est de la stupéfaction, parce qu'on se dit comment c'est possible au XXIe siècle de pouvoir rédiger ce type de propos. Il faut quand même taper à l'ordinateur, ensuite il faut l'imprimer, il faut l'envoyer. Enfin, je veux dire, il faut dans un état de haine et de dégoût vis-à-vis d'une autre personne, parce qu'elle est de couleur noire ou parce qu'elle est de telle ou telle religion, qui a atteint un niveau. Et on s'est dit qu'on doit vraiment travailler sur la question de l'éducation, sur la question aussi de l'ascension. Et moi, ce que je dis, c'est très très simple, c'est que pour ces personnes-là, on n'a pas le droit au repos face aux actes antisémites, face aux actes racistes, face aux actes xénophobes, et on ne laissera aucun répit aux personnes qui se livrent à de tels actes abjects. Et donc, il faut porter plainte systématiquement, il faut ne rien céder, ne pas se laisser intimider et dire que la démocratie, la liberté d'expression, le respect des différences, ce sont des fondamentaux de notre démocratie, parce que si on cède un pouce à ces personnes-là, ensuite, on ouvre la brèche à des choses qu'on a connues dans l'histoire et qui sont horribles.
Est-ce que vous faites un lien avec le mouvement des Gilets jaunes ?
Il n'y a pas de lien de cause à effet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ont profité d'une colère qui, à la base, était légitime sur le pouvoir d'achat, sur un sentiment de déclassement, pour s'engouffrer dedans et revêtir un gilet jaune et aller casser du policier, aller saccager, piller des monuments qui avaient aussi une valeur symbolique très très forte. Mais c'est pour ça qu'il faut que nous, on soit très très clair, très très ferme en disant il n'y a pas d'amalgame à faire. Mais en même temps, ces personnes qui participent aux manifestations, les gens qui par exemple refusent de notifier aux autorités le parcours des manifestations, en faisant ça, ils laissent la porte à ce type d'exaction et ils participent d'une certaine manière à ce type de d'exaction et de comportement violent.
Avant d'en arriver à l'aide au développement, rapidement, un mot de l'initiative de 86 députés de tous les bords politiques ou presque, mais dont une majorité tout de même de La République En Marche, qui ont appelé hier à rétablir une forme de taxe carbone équitable, ont-ils dit. L'initiative, vous ne l'avez pas signée, hein, je précise, et l'initiative a été plus ou moins condamnée, en quelque sorte, par le président de la République, en tout cas désapprouvée. Vous considérez que leur démarche était une erreur ?
J'ai beaucoup d'amitié pour un certain nombre de personnes qui l'ont signé. Je peux comprendre l'objectif, on peut comprendre pourquoi ils le font, et puis ils ont le droit de s'exprimer. Mais je pense, je l'ai dit hier, que c'est une erreur à la fois politique et une erreur stratégique. Sur le fond, je ne pense pas que d'aborder la question de la transition écologique à travers la fiscalité soit forcément la meilleure manière de la faire au vu des dernières semaines. Et puis sur la forme, de le faire comme ça sur une tribune, alors qu'on pourrait peut-être plus facilement ou simplement le faire dans le cadre des grands débats nationaux, c'est pour moi quelque chose qui aurait pu être fait différemment.
Alors, vous venez donc d'être nommé rapporteur d'un projet de loi de lutte contre les inégalités mondiales et de programmation de l'aide publique au développement qui sera examiné lors d'un conseil des ministres en principe à la mi-avril. C'était l'un des engagements de campagne d'Emmanuel Macron. Les objectifs sont ambitieux. Une hausse de 30% de l'aide française au développement. Augmentation de l'aide au développement pour qui et pourquoi? Avec quelle stratégie?
Alors, justement, la stratégie du président de la République, l'engagement, c'est de vraiment faire en sorte que les financements de l'aide au développement, le partenariat que l'on a avec notamment les pays africains, servent les populations les plus fragiles, aillent à la réduction de la pauvreté, à la lutte contre les inégalités, c'est-à-dire les femmes, les jeunes filles, les personnes qui recherchent un emploi. C'est de faire en sorte que ces financements supplémentaires, que le partenariat qu'on construit avec ces partenaires, permettent justement de lutter contre la transition écologique, de lutter contre les mobilités
lutter
subies.
Lutter pour la transition écologique, j'imagine, plutôt que lutter contre.
Oui, contre le réchauffement climatique, pardon. Et la transition écologique. Et l'idée, c'est aussi d'inscrire cette relation dans un cadre modernisé. C'est-à-dire, on ne peut plus avoir une politique de partenariat comme on l'avait il y a 30 ou 40 ans. Il faut passer beaucoup plus par les fondations. Il faut s'appuyer beaucoup plus fortement sur les diasporas. Il faut faire confiance beaucoup plus aux entreprises privées pour justement répondre aux questions de l'emploi, de la jeunesse et de la formation professionnelle. C'est tout un logiciel qu'il faut rénover, qu'il faut moderniser pour faire face aux enjeux notamment démographiques et aux enjeux...
Mais ça fait longtemps qu'on dit ça, que l'aide au développement, ça ne peut pas être, on va vous expliquer ce dont vous avez besoin et ensuite on va vous le donner, qu'il faut travailler en véritable partenariat. Ça n'est toujours pas à l'œuvre, en fait, cette méthode de vrai partenariat aujourd'hui?
Alors, ça a commencé avec un cadre qui a été renouvelé avec, en 2015, les objectifs du développement durable, qui prend en compte beaucoup plus fortement tous les aspects, mais force est de constater, le président de la République a vu, j'ai eu l'occasion de le voir aussi en mission, qu'on ne laisse pas assez la place notamment à la jeunesse, qu'on ne laisse pas assez la place aux ONG, qu'on ne travaille pas suffisamment avec les entreprises privées, que la question de l'éducation et de la santé, qui sont des enjeux primordiaux pour lutter contre les inégalités, ne sont pas suffisamment financés. Et c'est pour ça que le président souhaite une nouvelle stratégie, qu'il faut des financements renouvelés et des financements à l'os, mais qu'il faut surtout aussi un cadre d'évaluation beaucoup plus fort pour savoir ce que l'on fait dans ces pays, les partenariats qu'on fait, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça a des résultats, est-ce que ça a des impacts.
L'augmentation prévue est de l'ordre de 3 à 4% par an, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que vous ne craignez pas les critiques? Est-ce que vous n'entendez pas déjà en quelque sorte les reproches sur le thème pourquoi donner tant à l'étranger alors qu'il y a tant de besoins ici en France?
Non, mais elles sont... Ces questions, elles sont légitimes. Avant, on disait la Corrèze ou le Zambèze. Je serais tenté de dire maintenant, vu que je suis breton, les Côtes d'Armor ou les Comores. Donc, c'est-à-dire que c'est normal de se poser cette question-là. Mais le monde, c'est une sorte de colocation. Et on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas déjà effacer les frontières de la réalité. Et la réalité, c'est que sur les questions de pandémie, sur les questions de changement climatique, sur les questions de sécurité, sur les questions de commerce, toutes ces questions-là se règlent au niveau international. Et on ne peut pas, parce que l'appartement d'à côté, d'en haut ou d'en bas, est en train de brûler, où il y a des périls, où il y a des défis, on ne peut pas simplement détourner le regard et ne pas s'inscrire dans une politique de partenariat, d'investissement et de coopération. Et donc, c'est de dire que pour un certain nombre de défis, l'échelle pertinente, elle est à l'échelle internationale. On a besoin du multilatéralisme et on a besoin de financements internationaux pour justement régler toutes ces questions qui sont des questions cruciales. Et je peux vous dire que nos concitoyens sur le terrain, notamment en Bretagne, ils le comprennent très bien.
Merci Hervé Berville. Merci. Bonne journée.